Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Et oui, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Nous n'allons pas parler de l'entrepreneuriat, du salon de l'innovation du Kivu comme annoncé tout à l'heure, mais nous allons plutôt parler du diabète. Comment traiter, éviter ou retarder les conséquences du diabète? Docteur Angèle Mouakana, médecin chercheur spécialiste en phytothérapie, sera notre invité dans quelques instants. Des questions et préoccupations? Appelez au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Willem Lungamba, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Keshama, bienvenue à tous. Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler du diabète, comment traiter, éviter ou retarder les conséquences du diabète. Vous savez, s'il n'est pas diagnostiqué pour pouvoir ensuite être traité, le diabète peut être à l'origine des sévères complications. Une trop longue hyperglycémie peut exposer le patient diabétique à de nombreuses et graves complications au niveau des reins, des yeux, du système cardiovasculaire et du système nerveux. Alors, pour en savoir plus, nous recevons à présent Dr Angèle Mouakana. Bien, on me fait signe qu'elle sera en ligne dans quelques instants. Les médecins, chercheurs, spécialistes en phytothérapie, des questions, des préoccupations, appelez-nous déjà au 099-706-9941, 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiocapi.net, postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Au Capi Service. Tout à l'heure avec notre invité, nous allons parler du diabète qui peut avoir des complications, des conséquences néfaste. Alors, comment traiter, éviter ou retarder les conséquences du diabète? Voilà, nous allons en parler dans quelques instants avec notre invité. Bien, on me fait signe que notre invité est déjà en ligne. Docteur Angèle, bonjour. Docteur Angèle Mouakana, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes médecin, chercheur, spécialiste en phytothérapie. Nous allons parler avec vous du diabète. Comment traiter, éviter ou retarder les conséquences du diabète. La première question est de savoir, c'est quoi le diabète?
En fait, le diabète, c'est une maladie métabolique caractérisée par une présence importante du sucre dans les sangs et également dans les urines.
Voilà, une présence importante du sucre dans les sangs et dans les urines. Quelles sont les causes du diabète, docteur?
En fait, le diabète, il y a beaucoup de facteurs déclenchants. Il y a la mode de vie sédentaire, le manque d'exercice physique. Il y a les pathologies du pancréas, telles que l'inflammation du pancréas. Il y a également les pathologies du foie, telles que les stéatoses hépatiques. Il y a aussi l'alimentation et l'hérédité.
Voilà, ce sont là les causes. Mais parmi toutes ces causes, lequel est le plus, quelle est la cause la plus, qui cause beaucoup plus de cas de diabète, qui est à la base de plus de diabète?
Le manque d'exercice physique et la stéatose hépatique.
C'est quoi la stéatose hépatique? En des termes beaucoup plus simples.
Ok. La stéatose hépatique, c'est l'accumulation de graisse au niveau du foie. Et quand les graisses encombrent le foie, ça empêche le foie de pouvoir fonctionner comme il faut. C'est ça ce que nous appelons la stéatose hépatique. Mmh. Souvent, les gens qui développent cette pathologie que nous appelons la stéatose hépatique, ils commencent d'abord par faire ce que nous appelons la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'ils sécrètent de l'insuline, mais une insuline qui n'est pas forte ou l'organisme n'est pas à mesure de pouvoir l'utiliser comme il faut.
Eh bien, donc ces personnes ont beaucoup plus de graisse au niveau de leur foie. Et comment arrive cette accumulation de la graisse?
En fait, tout ce que nous consommons, il y a de la graisse dedans. Surtout ce que nous préparons. La graisse qui est utilisée, ou les huiles qui sont utilisées dans nos cuisines, ce sont des huiles qui ont beaucoup de mauvais cholestérol, riches en LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol. Mmh. Alors le foie étant l'organe qui agit dans la distribution de tous les éléments que nous ingérons dans notre organisme, il arrive à un certain moment que au niveau du foie, tout ce que nous consommons qui est trop gras là, se retrouve là-bas et se colle sur le récepteur de l'insuline. Je pourrais peut-être expliquer ça d'autre façon pour que des gens puissent comprendre. Lorsque nous mangeons, que ce soit avec l'huile de palme, avec l'huile raffinée, les aliments au niveau de l'estomac, l'estomac n'est pas un stock, un organe qui stocke les aliments. Il est là juste pour pouvoir digérer ça. Et quand il y a digestion, tous les éléments dont l'organisme a besoin, y compris les mauvais cholestérol et autres, vont se retrouver au niveau du foie. Et c'est le foie qui doit dispatcher chaque élément vers l'organe dont elle doit travailler. Les graisses que nous avons mangées et n'ont pas un organe fixe. Ce qui fait que ces graisses-là restent au niveau du foie, des fois au niveau de notre ventre. Vous allez remarquer que la majorité des gens qui développent le diabète sont des gens qui y avaient déjà ces problèmes-là de mauvaise alimentation, où ils avaient déjà beaucoup de graisses au niveau du ventre, et ces graisses-là font que le foie ne puisse pas fonctionner comme il faut.
Bien, donc ce sont là les causes. Alors, parlez-nous des facteurs des risques du diabète, docteur.
Ok. Il y a des gens, il y a ce que nous appelons le diabète gestationnel. Les facteurs de risque, donc, c'est gens qui, des femmes enceintes, qui se donnent au caprice de la grossesse, peuvent développer le problème du diabète. Lorsqu'on parle de l'hérédité, donc les enfants qui sont nés avec des mamans qui ont développé le diabète gestationnel sont exposés à développer le diabète du type 2, mais lorsque on est diabétique, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Quand je parle de beaucoup de choses, nous parlons d'abord là de l'hypertension artérielle. Pourquoi il y a l'hypertension artérielle? C'est parce que la personne qui est diabétique, au niveau de ses artères, il y a de mauvais cholestérol qui empêche à ce que le sang puisse circuler comme il faut. Et à ce moment-là, il y a l'hypertension qui va s'installer. C'est l'un des facteurs. Mais l'hypertension peut également s'installer suite à la vitesse selon laquelle le sang doit circuler dans les artères. Un diabétique, il est censé boire beaucoup d'eau et uriner beaucoup. Alors quand il fait ça, il oblige son cœur de pouvoir pomper le sang à double ou à triple par rapport à la façon dont il fonctionne normalement. Et la vitesse là que le sang doit quitter le cœur pour aller dans les artères, c'est cette vitesse-là qui peut, que nous appelons, quand c'est au-delà, c'est déjà de l'hypertension artérielle. Un diabétique le développe pour deux facteurs. La première facteur, c'est par rapport au fait qu'il a obligé son corps à pouvoir travailler plus que d'habitude ou plus que quelqu'un qui est normal. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, ce sont ces mauvaises graisses-là qui sont au niveau de leur pensée, au niveau de des artères, qui vont aussi déclencher l'hypertension. Et lorsque, quand on parle de facteurs de risque du diabétique, hormis ça là, il y a également ce que nous appelons l'accident cérébrovasculaire. Un diabétique qui a un problème de l'hypertension artérielle, il est exposé à développer ou à un jour faire développer ce problème que nous appelons l'accident cérébrovasculaire ou l'AVC. Hormis les AVC, au niveau du cœur, un diabétique, il est exposé à développer également, ça fait partie des facteurs de risque et de ceux qui souffrent de diabète, il est exposé à développer ce que nous appelons l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est quoi? Les muscles qui sont au niveau du cœur, lorsqu'on les oblige à travailler au-delà de la façon dont elles travaillaient avant, à un certain moment, ils vont s'affaiblir. Et quand ces muscles s'affaiblissent, le malade a développé un problème de au niveau de muscles. Hormis ça, il y a également l'hypertension artérielle qui a amené les AVC et aussi à mesure d'amener l'insuffisance rénale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit classifier les gens souffrant de l'insuffisance rénale, vous allez remarquer que le diabète est le premier facteur déclenchant l'insuffisance rénale chez les adultes souffrant du diabète. Pourquoi? Parce que le rein qui devait filtrer au moins 18 litres de sang pendant le 24 heures, les reins sont censés filtrer au moins 36 litres ou au-delà 51 litres, c'est-à-dire au-delà de la valeur qu'il fallait.
Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de facteurs de risque du diabète. Donc,
il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. On va accueillir un auditeur, Francis, depuis Kinshasa. Bonjour. Bonjour, Francis. Francis, vous êtes là? Bien, il n'est pas là. Il va certainement nous relancer. Alors, docteur, quels sont les symptômes du diabète?
Le diabète a trois symptômes communs, sans parler des autres symptômes des symptômes secondaires, je peux dire. Lorsqu'on parle des symptômes propres au diabète, nous faisons allusion à la polyrie. La personne qui est diabétique, il urine beaucoup. Surtout s'il n'a pas maîtrisé son taux de glycémie, il aura tendance à trop faire pipi. Il y a la polyphagie, il aura trop faim quand il mange, il a l'impression qu'il ne se rassasie pas. Il y a également la polydipsie qui est l'envie de boire beaucoup d'eau. Hormis ces trois symptômes-là qui sont communs à tous les diabétiques, il y a des vertiges, il y a l'amaigrissement, il y a des fois des sensations de picotement au niveau de place des pieds, il y a des crampes au niveau de mains, il y a également les sensations de fourmillement, donc cette sensation qu'on peut sentir lorsque les fourmis marchent sur un organe de notre corps, tel que la main, les pieds ou autre. Mais il va remarquer que quand il vérifie, il va voir qu'il n'y a pas de fourmis, mais il sent qu'il y a des fourmillements, soit au visage, soit au niveau de pieds, soit la perte de sensibilité.
Voilà, ce sont là les signes, les symptômes du diabète. Alors, quels sont les différents types de diabète? On entend parler du diabète du type 1, diabète du type 2, etc.
Oui, lorsqu'on parle du diabète du type 1, c'est le diabète qui touche nos enfants. Cette pathologie a touché nos enfants. Pourquoi? Parce que la maman avait présenté ce qu'elle nous appelle notre type de diabète, le diabète gestationnel. Ce diabète que les femmes peuvent développer pendant la grossesse, suite au fait qu'ils ont mangé de n'importe quoi, parce que les envies de la grossesse ont demandé ça. Et à un certain moment, la dame développe de l'hyperglycémie qui, après accouchement, si la dame arrive à le maîtriser comme il faut, il y a possibilité qu'elle ne soit pas diabétique.
Un instant, docteur, on va accueillir Francis de Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, bonjour. Quelle est votre question, Francis?
Ah, ok. Je salue d'abord l'intervention du docteur. Alors, il a parlé des diabètes que l'on acquiert par la consommation de certains aliments et les diabètes héréditaires. Alors, la première préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen? Quelles sont les mesures à prendre lorsque l'on est diabétique héréditaire pour essayer un peu soit de calmer? Et puis, ma deuxième question, il y a une certaine opinion, je ne suis pas médecin, mais qui a tendance à dire que le diabète ne se guérit pas. Voilà pourquoi je voulais demander à notre invité, est-ce que c'est vrai ou ce sont juste des préjugés ou des pensées de certaines personnes? Voilà un peu mes deux petites préoccupations.
Bien, merci. Docteur Angèle, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Francis?
En parlant du diabète du type 1, comme je le disais, c'est le diabète héréditaire. Elle est devenue héréditaire, pourquoi? Parce qu'à un certain stade, le patient a eu un problème du pancréas et le pancréas peut tomber malade. Quand le pancréas tombe malade, au niveau du pancréas, il y a des hormones qui sont sécrétées. Il y a l'insuline ainsi que les glucagons. Donc, la personne qui développe le diabète du type 1 a tendance à produire du glucagon, qui est l'hormone qui active l'hyperglycémie, et il a du mal à pouvoir produire de l'insuline. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hormone qui réduit le taux du sucre. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Souvent, il faut contrôler ce que vous mangez. Hormis le fait de contrôler ce que vous mangez, vérifiez également par rapport à la prise de l'insuline. Parce que quelqu'un qui développe le diabète du type 1, son pancréas n'est pas à mesure de sécréter de l'insuline, ou elle sécrète de l'insuline, mais à une très, très faible quantité. Donc, l'organisme ne pourra pas se servir comme il faut. C'est pourquoi il faut contrôler ce que vous mangez, faire des exercices régulièrement, et puis faire en sorte que votre taux de glycémie soit toujours en dessous des 150. Pour ce qui est, il a demandé, je pense, ce qu'il faut, la question par rapport à la guérison, oui.
Oui, il dit qu'il a appris qu'on ne guérit jamais du diabète. C'est une maladie chronique.
En fait, au début, toutes les maladies que nous voyons aujourd'hui étaient déclarées chroniques. Même le paludisme, même la tuberculose, le fièvre typhoïde et autres. Mais avec la recherche aujourd'hui où nous parlons, les pathologies du diabète, elle est guérissable. Pourquoi je dis qu'elle est guérissable? C'est parce qu'il suffit de corriger les cellules pancréatiques, il suffit de rajeunir plutôt les cellules pancréatiques. Ces cellules-là seront à mesure de produire de l'insuline androgène, et cette insuline androgène va agir dans la consommation de ce que nous avons, ce que nous prenons comme aliment. C'est pas l'insuline qui réduit le taux du sucre lorsque la personne n'est pas diabétique ou il est diabétique, mais ce qui réduit le taux du sucre, ce sont les cellules qui captent le sucre que nous mangeons et les transforment en énergie. Les excédents du sucre sont renvoyés au niveau de l'organisme et évacués dans le sel ainsi que dans les urines. Alors, je tiens à attirer son attention que pour le moment, le diabète est guérissable.
Bien, le diabète est guérissable. John nous appelle de l'ICACI. Bonjour, et quelle est votre question? Bonjour, John.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Bonjour, bonjour à l'invité.
Oui, bonjour.
Ma question est ici. À souvent, moi, je suis dans l'ignorance du traitement de la diabète, que je crois que c'est la matière que nous avons toujours appris.
John, parlez un peu plus fort.
Même devant un enseignant. Oui, je dis.
Allez-y, parlez un peu plus fort pour nous permettre de bien vous entendre.
J'ai dit, je suis en train un peu de vous poser la question, comment un peu le traitement de la diabète va s'effectuer même devant, soit même dans des milieux qui sont un peu reculés. Comment on peut traiter cette maladie un peu rapidement, puisque c'est un cas qui prend souvent ici dans notre région, avec des produits que nous amènent ici. D'ailleurs, souvent la diabète nous attaque souvent, monsieur. C'est là que je suis en train de demander comment le traitement rapide doit être effectué.
Bien, comment assurer un traitement rapide, surtout dans les milieux, dans les zones reculées ou dans certaines régions du pays, docteur Angène?
Oui, il y a possibilité de réduire le taux de glycémie ou de soigner le diabète, que ce soit dans un milieu reculé. Hormis peut-être les recherches que nous avons fait dans la prise en charge, il y a la liste des aliments que la personne peut consommer et ces aliments-là pourront l'aider à ramener son taux de glycémie dans les bons. Alors, pour ce qui est de produits, présentement, c'est seulement ici à Kinshasa. Donc, sauf que les produits sont envoyés dans les provinces lorsque le malade est vraiment confirmé qu'il est diabétique. À la fin peut-être de cette émission, je pourrais peut-être expliquer certains aliments aux fruits que nos auditeurs qui sont en train de suivre cet élément pourront utiliser ou pourront prendre, et ceci les aiderait à pouvoir réguler leur taux de glycémie aussi longtemps ils sont encore loin.
Voilà, docteur, une trop longue hyperglycémie peut exposer le patient diabétique à des graves complications. Ça, on a appris que ça peut toucher les reins, les yeux, les systèmes cardiovasculaires, les systèmes nerveux. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Exactement. Lorsque la personne qui a une hyperglycémie, une très grande hyperglycémie, c'est-à-dire la personne qui a l'hyperglycémie au-delà de 200, il est exposé à aller uriner régulièrement, alors que les urines sont les déchets du sang. Nous obligeons les cœurs à pouvoir pomper le sang à triple fonction par rapport au fait que, à la manière dont le cœur est censé pomper le sang, chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Et ça amène quoi? Ça amène un problème au niveau cardiaque. C'est déjà une pathologie cardiaque qui va s'installer. La vitesse à laquelle ce sang-là doit circuler dans les artères, elle est tellement grande que la personne va développer une hypertension artérielle. Les deuxièmes complications. La vitesse à laquelle ce même sang-là va se retrouver au niveau du cerveau, là où il y a des petits vaisseaux-là, ces petits vaisseaux ne pourront pas supporter la même fréquence, la même vitesse. Il y a l'accident cérébrovasculaire. La même vitesse-là au niveau rénal, le rein est censé tripler sa façon de filtrer le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le sang qui arrive pour qu'il soit filtré. La personne, à un certain moment, présentera l'insuffisance rénale. Avec beaucoup de déchets là qui sont dans les sangs, qui vont se coller sur des petits vaisseaux là au niveau rénal, et ça va déclencher l'insuffisance rénale. Il y a également au niveau des yeux, la vitesse à laquelle les sangs là doivent circuler au niveau des yeux, c'est ce qui amène des visions floues. À un certain moment, il y a risque que la personne développe une cécité. La même vitesse là au niveau de nos pieds va affecter le fonctionnement des nerfs, parce que les nerfs prennent leur source au niveau de nos places des pieds. Ça va affecter le fonctionnement des nerfs et il y aura une perte de sensibilité. Ce qui peut faire que vous avez un diabétique qui a une petite plaie, cette plaie-là, il a du mal à sentir qu'il a la plaie. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes de sensibilité. Et hormis ces problèmes de perte de sensibilité, il y a également des petites plaies-là qui peuvent être en contact avec des infections. Et comme le microbe aime bien se raffoler de cycles, ces infections-là vont vraiment faire résidence au niveau du pied, ce qui amène les malades à être amputés. Ça fait partie des complications que le diabète peut amener. Hormis l'infarctus du myocarde, il y a l'amputation des membres inférieurs, il y a l'accident cérébrovasculaire, il y a l'insuffisance rénale, il y a également des infections à répétition qui ne se terminent pas.
Bien, voilà, donc le diabète peut être à la base de beaucoup de problèmes de santé. On va accueillir Safari depuis Higa Barrière. Bonjour Safari.
Bonjour, merci pour la parole.
Quelle est votre question?
Trois petites questions à poser à Monsieur Levité. La première, c'est de savoir comment les diabétiques pissent beaucoup là. Est-ce qu'on peut lui recommander de beaucoup boire de l'eau? Oui. Puis la question qui suit, même s'il ne boit pas de l'eau, est-ce qu'il aura quelque chose à pisser comme de l'urine? Ça, c'est la deuxième question. Et puis pour finir, même si quelqu'un consomme trop d'aliments gras, et pourtant il évite quand même des boissons sucrées, est-ce qu'il peut toujours développer la maladie? Oui, donc je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Docteur Angèle.
Ok, merci beaucoup. D'abord, lorsque un diabétique pisse beaucoup, son organisme elle-même l'oblige de boire de l'eau. J'avais expliqué parmi les trois symptômes qui sont communs chez tous les diabétiques, j'avais fait allusion à la polyphagie, à la polydipsie et à la polyurie. Donc la polydipsie a envie de boire de l'eau régulièrement parce qu'il urine beaucoup, il va sentir cette sensation de sécheresse buccale qui va l'obliger à boire de l'eau. La réponse, je pense qu'il a trouvé la réponse par rapport à ça. Et s'il ne boit pas de l'eau, son organisme va l'obliger. Mais s'il ne boit pas de l'eau, il est en train de détruire les cellules épithéliales qui sont au niveau du vessie ainsi qu'au niveau rénal. Pourquoi? Parce que l'acidité des urines, cette acidité-là va brûler les cellules-là et puis ça va se retrouver, il va faire plutôt une perte de cellules épithéliales qui pourra se retrouver dans les urines. La troisième question était de savoir si la personne mange trop gras et qu'il ne prend pas trop de sucre, il peut développer des diabètes. Oui. il va les développer comment les matières grasses que vous mangez là vont se coller au niveau du récepteur de l'insuline. L'insuline que nous produisons est utilisée comme la clé sur les cellules du muscle et les cellules du foie. Alors, lorsque vous mangez trop gras, le gras dans l'organisme n'a pas un endroit précis où ça doit aller se coller. Ça se colle sur tous les récepteurs de l'insuline, sur les cellules du muscle, ainsi que sur les cellules du foie. Ce qui fait que ça encombre le foie et vous développez la stéatose hépatique, qui est une maladie du foie causée par la consommation des aliments trop gras.
Bien, voilà. Alors, comment traiter, éviter ou retarder les conséquences du diabète, docteur Angèle?
Pour retarder les conséquences du diabète, c'est très facile. Il suffit seulement, d'abord, contrôler ce que nous mangeons, éviter de manger trop gras et trop sucré. Pourquoi? Parce que le gras et le sucre plutôt dans notre organisme se transforme aussi en gras, en matière grasse. Associé avec le gras que nous mangeons là, ça devient déjà en excès. Il faut éviter de manger trop gras, éviter de manger dans des heures tardives, faire des exercices physiques, même à la maison, si vous remarquez que vous avez mangé dans des heures tardives. Il suffit de faire des petites courses là ou des petites marches rapides dans votre salon ou dans votre parcelle avec l'objectif de pouvoir brûler ou de transpirer. Ça va vous aider enfin de pouvoir ramener votre taux de glycémie dans les bons. Hormis ça, il faut manger. Pour ce qui est des fruits, il faut consommer des fruits qui ont un indice glycémique un peu trop bas ou qui n'ont pas vraiment une quantité importante, tels que le pamplemousse, tels que l'abricot, tels que le pêche, tels que les goji, tels que les myrtilles. Ça fait tels que le corossol, ça fait partie des fruits qui ont un indice glycémique très bas, qui vous empêcherait de pouvoir développer de l'hyperglycémie. Et pour ceux qui ont l'habitude de consommer des aliments trop sucrés, ayez l'habitude de prendre soit beaucoup d'eau pour pouvoir uriner et évacuer le sucre que vous avez mangé, que vous avez pris plus tôt. Hormis ça là, il faut également de temps en temps faire votre check-up. Pourquoi faire le check-up? Il peut s'avérer que votre taux de glycémie, elle est dans le bon, mais votre hémoglobine glycée est au-delà de la valeur normale qui est de 5,9. Alors si vous êtes déjà à 6, à 7 ou à 8, sachez que vous n'avez pas encore développé le diabète, mais vous êtes déjà dans la prédisposition de développer cette maladie. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos globules rouges dans votre organisme, dans chaque globule rouge, il y a au moins une quantité supérieure à la valeur normale du sucre qu'on doit trouver.
Bien, donc ce sont là les précautions à prendre pour éviter ou retarder les conséquences du diabète. Nous avons un auditeur anonyme qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je vais bien sûr, docteur Angèle, mais malgré la modernité de ce monde, cette maladie avait toujours existé pendant nos arrières, grands-pères, pères, tout ça. Mais je suis dans une famille où cette maladie, elle est héréditaire. J'ai une dame qui est décédée de cette maladie. Le taux de glycémie était au-delà de 500-600. Mais nous avons trouvé une plante. Avec cette plante, même sur le plan, même l'OMS... Sur tous les plans, ils peuvent accepter les effets de cette plante.
Il s'agit de quelle plante?
De préparer les feuilles. Et puis, vous donnez à un malade, il prend le liquide de cette eau, même s'il était de tel ou tel pourcentage, il sera guéri.
Monsieur, il s'agit de quelle plante?
Non, c'est une plante, mais là, c'est un secret professionnel, mais c'est une plante, mais qui est même au niveau de même à côté dans vos parcelles là-bas. Ça est dans nos parcelles, c'est une plante qui a été qui existe, mais une plante qui est partout là.
Et pourquoi vous dites que c'est un secret professionnel? Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi l'utiliser et guérir de la maladie.
Mais même chaque praticien, il prend secret de ces plantes, mais moi c'est une plante pour cette maladie seulement, mais...
Vous êtes tradit praticien? Vous êtes tradit praticien?
Non. Bien. On a connu cette femme suite à la maladie que j'avais, mon épouse, que j'ai perdue. Mais pour leur famille, c'était une maladie héréditaire.
Oui. Voilà, c'était une maladie, et c'est une maladie héréditaire dans la famille de votre épouse.
Docteur peut s'intéresser, malgré les pharmacologues, mais la modernité avec la médecine, mais le docteur peut connaître cette branche, il peut, avec ses compétences, tirer la valeur qui est dans ces plantes, et puis la plante sera connue, il pourra faire même le produit pour guérir nos compatriotes au monde.
Bien, merci monsieur qui n'a pas voulu donner son nom. Il nous a appelé de Lubumbashi. Docteur Angel, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire après ce qu'il vient de dire, de nous relater là?
Ah oui, le diabète, c'est une pathologie qui date de longtemps, mais qui n'a pas eu d'ampleur comme aujourd'hui. Parlant des plantes, il y a beaucoup de plantes qui sont des hypoglycémiens. Donc, ça vous aide à ramener votre taux du sucre, peut-être entre 100, entre 70 à 150. Mais l'objectif, c'est pas de ramener le sucre à ces taux-là. L'objectif, elle est de guérir la maladie. Aujourd'hui, il y a possibilité de guérir du diabète et non de ramener le taux de glycémie dans la valeur normale. Pour ce qui est des plantes, il y en a beaucoup. Il y en a même des épices. Que lorsque la personne utilise ça, ça va l'aider à ramener son taux de sucre dans la valeur normale ou un peu légèrement, je peux dire légèrement augmenté, mais qui prend les promesses de pouvoir vivre. Mais quand on prend ce genre de décoction ou de produits et qu'on ne sait pas si réellement ça guérit ou ça va juste nous aider à ramener notre taux de glycémie dans la valeur normale, c'est là où ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que il y a par peur de manger ou quand vous mangez sous prétexte que vous êtes guéri, alors que vous n'êtes pas guéri, le produit a juste régulé le taux du sucre qui était dans la circulation sanguine. Vous risquez de manger des aliments comme il a dit et vous vous présentez avec un taux de glycémie déjà de 500, 600 ou plus. Ce sont ces genres de taux de glycémie là qui amènent des gens dans des comas diabétiques. Et après le coma diabétique, s'il n'y a pas une meilleure prise en charge, la personne est partie. Alors que, il était tellement attaché à son décoction là de plantes qu'il prenait, sans pourtant savoir que c'est une décoction qui est là que pour réguler les taux de glycémie et non pour guérir.
Donc, il faut pas trop se fier à ces décoctions, il faut plutôt aller consulter et puis être prise en charge médicalement.
Exactement. Pourquoi il faut aller se faire consulter? C'est parce que, au niveau de l'organisme, lorsqu'on choisit de se faire consulter, il y a des examens qui sont demandés. Parmi ces examens, je vais énumérer quelques-unes. Il y a ce que nous appelons la CPC, il y a ce que nous appelons la triglycéride. C'est pour vérifier si réellement le pancréas est récupérable ou non. Il y a des examens tels que l'insulinémie pour savoir, bien qu'il est diabétique, il a développé le diabète du type 2. Est-ce qu'il sécrète de l'insuline? La quantité de l'insuline qu'il sécrète là, est-ce que c'est fort ou bien c'est une quantité qui est faible? Hormis ça là, il y a des examens qu'on vérifie le fonctionnement du foie. Donc il y a l'échographie abdominale qu'il faut demander pour voir si le malade qui a développé le diabète, parce que la majorité des gens sont des gens qui sont grasses. Alors, lorsque des personnes pareilles arrivent en consultation, il faut vérifier si au niveau de son abdomen, il a développé les stéatoses hépatiques ou non. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui est sournoise. On ne peut pas le dépister directement comme ça. Ça va commencer, ça va vous amener des complications à la longue. À tout ça là, ce n'est pas à la maison ou chez un guérisseur qui fera des examens. Mmh. Il faut se faire consulter. On vous demande des examens qui ont trait au pancréas, qui ont également trait à votre foie pour pouvoir tirer une diagnostic définitif. Avec le diagnostic définitif, on sait que si M. X ou Mme Y est venue en consultation, c'est parce qu'il a un problème de stéatose hépatique. C'est parce qu'il a un problème d'hypercholestérol qui est un facteur déclenchant le diabète aussi. Au niveau des récepteurs de l'insuline, il y a trop de graisse. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous administrons les produits qui doivent nettoyer les récepteurs de l'insuline. Et son insuline qu'il est en train de sécréter là va reprendre à se coller facilement sur les récepteurs. Et les cellules vont reprendre à capter le sucre comme il faut.
Mmh. On va accueillir Kalambaï depuis Mbujimayi. Bonjour. Bonjour Kalambaï.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons du traitement des conséquences du diabète. Quelle est votre préoccupation?
Pour moi, j'avais des questions à demander auprès de notre docteur. C'était juste de savoir comment différencier le diabète sucré et l'hyperglycémie. Puisque beaucoup de gens, quand il est dans un état hyperglycémique, il confond directement au diabète sucré. La deuxième question. Si quelqu'un est diabétique, alors il est parti à l'hôpital, on a fait la glycémie est devenue normale. Alors, à un moment donné, il est tombé dans un état de l'hypertension. Est-ce qu'on peut donner les produits pouvant lui permettre dans un état de lui permettre à éliminer ou non? Merci beaucoup pour...
Pour lui permettre à éliminer quoi?
J'ai dit ceci. J'ai des questions.
Oui, la deuxième... je parle de la deuxième question. Vous dites que la personne... le taux de glycémie a été stabilisé, mais la personne est hypertendue. Faut-il lui donner des produits pour guérir l'hypertension? C'est ça, votre question?
Ça va. Merci.
Bien. Docteur Angèle.
OK. Pour ce qui est de l'hyperglycémie, la majorité des gens, pas je peux dire la majorité, presque tout le monde font des hyperglycémies. Lorsque on se réveille le matin, on prend le petit-déj, on part au travail, il fait très chaud, à un certain moment on a faim, on prend les jus, on rentre le soir, on trouve que notre femme a préparé les haricots et les riz, on mange, on va, avant d'aller dormir, il y a un ami qui nous appelle, nous nous retrouvons quelque part, on se partage quelques bouteilles de bière, on rentre, on dort, demain matin il suffit de contrôler la glycémie, on est déjà dans l'hyperglycémie. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui est dans cette hyperglycémie-là, elle est différente avec l'hyperglycémie des diabétiques? Demain, la journée de demain, il suffit de se réveiller, de partir au travail, de ne pas consommer du sucre comme on l'a consommé là, les jours suivants ou même le jour là, les après-midi, vous contrôlez votre glycémie, vous serez déjà dans la valeur normale. Là, ce n'est pas une hyperglycémie diabétique. Mais l'hyperglycémie devient diabétique quand, lorsque on se retrouve qu'on est dans l'hyperglycémie, nous continuons à consommer des aliments sucrés qui augmentent notre taux du sucre dans le sang, mais nous ne perdons pas, nous ne faisons pas des efforts pour pouvoir brûler l'excès de sucre là. À un certain moment, on commence par être dans la pré-diabétique. Quand on est déjà dans le pré-diabète, avec progressivement le pré-diabète, nous avons la possibilité de développer le diabète. C'est là, un diabétique avec son hyperglycémie, sans prendre les médicaments, il a du mal à pouvoir gérer ça. Tandis que quelqu'un qui fait l'hyperglycémie et qui n'est pas diabétique, il a la possibilité de devenir normal sans prendre les médicaments, il ramène son taux de sucre dans la valeur normale. Parlons d'un diabétique qui a développé l'hypertension. L'hypertension fait partie des complications du diabète. On peut vous soigner aujourd'hui, on a régulé le taux du sucre, mais on n'a pas guéri le diabète. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher le facteur déclenchant et soigner ce facteur déclenchant, même si vous avez le taux de glycémie qui nage dans la valeur normale. Lorsque vous avez développé l'hypertension, c'est possible, c'est facile de prendre des produits qui vont vous guérir de votre hypertension. Mais ces produits qui vont vous guérir de votre hypertension-là ne vont pas aussi guérir l'hypertension, mais ça va juste ramener les systoles et les diastoles dans la valeur normale. Sauf que si vous ne prenez pas un médicament, vous allez faire un pic stationnel élevé.
On va accueillir Achille de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour. Je dis bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs.
Nous parlons du traitement des conséquences du diabète. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, j'avais juste une question posée à l'invité. Ma question est la suivante. Bon, il y a peut-être des personnes qui vivaient très longtemps avec le diabète et ils sont partis à l'hôpital. On leur avait dit, par exemple, que non, cette maladie était une maladie chronique. Puisqu'ils sont diabétiques, puisqu'ils savent que c'est une maladie chronique et cela les rend beaucoup plus malades. Et aujourd'hui, l'invité nous dit que non, cette maladie peut être guérissable. Alors, quel est le message qu'il peut donner à tous ces gens-là qui vivaient avec ce désespoir-là, que non, c'est une maladie chronique, vous ne pouvez pas guérir. Et aujourd'hui, Elle nous dit qu'on peut être guéri. Alors, quel est le message que tu peux donner à tous ces gens-là? J'allais aussi demander si le diabète était une maladie contagieuse. Voilà ce que j'allais dire.
Voilà. Quel message adresser à toutes ces personnes qui sont dans les désespoirs après avoir découvert à l'hôpital qu'elles souffrent du diabète? Voilà. Et puis, il veut savoir si le diabète est une maladie contagieuse. Docteur Angèle.
Le diabète n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie due au manque de métabolisme du sucre dans le sang. Lorsqu'on n'arrive pas à gérer le sucre comme il faut, à un certain moment, on développe le diabète. Pour ceux qui sont malades, le diabète est guérissable. C'est avec la majorité des gens, j'en faisais partie, de ceux qui ont été enseignés à l'université, dans les facultés, que le diabète est une maladie incurable, il faut seulement vivre avec. Mais avec les recherches que nous avons découvertes, qu'on a fait, nous sommes toute une plateforme. Avec les recherches, nous avons découvert des produits qui soignent et qui guérissent les diabètes. Ça le soigne et ça le guérit comment? Lorsque quelqu'un est diabétique, il est diabétique parce que je l'ai expliqué à maintes et maintes reprises pendant le déroulement de cette émission. Il y a un organe qui a été malade tel que le foie ou le pancréas lui-même. Alors, il suffit de rajeunir les cellules du corps humain, rajeunir les cellules du pancréas, activer la production de l'insuline androgène. La personne qui était déclarée diabétique a la possibilité de redevenir dans l'état où il était avant, de consommer tout ce qu'il ne mangeait plus parce qu'il est diabétique, que c'est une maladie stressante, surtout s'il faut respecter le régime alimentaire. Donc, il y a une lueur d'espoir, les diabètes, vous qui souffrez du diabète du type 2, il y a possibilité de guérir de cette maladie et de redevenir normal.
Voilà, il y a possibilité... de guérir de cette maladie. Alors, revenons encore sur les choses à faire pour retarder les conséquences du diabète. Si j'ai bien compris, docteur, la pratique du sport ou l'exercice physique est capitale pour bien réguler le taux du sang dans le sucre. Pardon, le taux du sucre dans le sang.
Exactement, l'exercice physique est capital. Hormis l'exercice physique, il faut contrôler ce que nous mangeons. Hormis le fait de contrôler ce que nous mangeons, on doit se faire une discipline là par rapport aux heures à laquelle nous devons manger. Lorsqu'on sait qu'on a festoyé beaucoup pendant ces week-ends, on a ingéré trop des aliments gras et trop des aliments sucrés, il faut réduire la consommation de ces aliments là la semaine qui commence pour faciliter à votre organisme de gérer d'abord ce que vous avez consommé. De temps en temps, faire des examens tels que l'hémoglobine glycée pour rechercher les taux du sucre qui sont dans les globules rouges et faire également la glycémie de temps en temps pour voir les taux à laquelle vous avez. Ceux qui sont dans la prédisposition diabétique surtout, contrôler ce que vous mangez, ça vous aiderait à ne pas tomber malade. Ceux qui souffrent de stéatose hépatique, je sais qu'ils sont nombreux, mais ils ne connaissent pas qu'ils sont malades. Parce que leur foie ne leur dit pas qu'il est malade. Alors là, avec l'échographie, si on avait découvert fortement la stéatose hépatique plutôt, là, chercher à vous débarrasser de cette maladie-là, vous n'allez plus présenter la résistance à l'insuline et vous n'allez pas développer les diabètes.
Bien, est-ce que le fait, par exemple, de prendre chaque jour, chaque soir, 3 à 4 bouteilles de bière, 4 bouteilles d'alcool, ou 5, ça peut exposer?
Exactement, c'est ce qui déclenche, ça fait partie de ce qui déclenche le stéatose hépatique alcoolique.
Voilà, donc, mais il y a des gens aujourd'hui qui, ils ont développé l'habitude de se retrouver avec des amis, et prendre 3, 4, 5, 6, 7 bouteilles. Parfois, ça devient difficile de se défaire de ces habitudes-là.
Il y a possibilité si on a la volonté. Parce que lorsque on développe les stéatoses hépatiques et qu'il n'y a pas une meilleure prise en charge qu'il faut, vous avez la possibilité de développer l'hépatite B. Comprenez un peu, l'hépatite qui va se déclencher peut-être en hépatite B ou un cancer du foie. Alors, s'il faut voir les conséquences de ce que nous prenons, il y a possibilité, s'il y a bonne volonté, de pouvoir se défaire de ça. On ne peut pas se défaire de 5 bouteilles directement, mais on peut commencer à réduire progressivement et jusqu'à arriver dans la valeur normale.
Bien, on va accueillir Emmanuel de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Emmanuel?
Oui, en tout cas, je suis vraiment très content pour les sujets du jour. J'ai deux petites questions à poser à notre docteur Angel. Ma première question est celle-ci. J'ai un ami, donc ses parents sont des diabétiques. Alors, lui, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette solution? Puisque notre docteur a expliqué à un moment donné, le diabète peut être aussi héréditaire. Alors, justement, mon ami là, qu'est-ce que lui, il peut faire? Ses parents sont diabétiques. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Monsieur le journaliste et notre docteur, au niveau du village, les guérisseurs et les traduits praticiens, ils traitent cette maladie. Je ne sais pas, qu'est-ce que le docteur peut dire? Est-ce qu'ils sont sassés, ils sont habilités à traiter cette maladie? Je ne sais pas, qu'est-ce que le docteur peut dire par rapport à ça? Puisqu'au niveau du village, les guérisseurs sont des maîtres, ils traitent cette maladie. Voilà un peu ma préoccupation par rapport à notre émission du jour.
Emmanuel, est-ce que votre ami est déjà parti à l'hôpital pour des consultations pour vérifier si il a la maladie ou pas?
Oui, il a consulté, il a de la maladie, bien évidemment, puisque c'est héréditaire, ses parents possèdent également cette maladie. Lui-même également, il souffre de cette maladie. Alors, quelle solution? On est en train de s'ouvrir l'émission et il m'a recommandé de poser sa préoccupation pour le docteur.
Bien, docteur Angel, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
D'abord, lorsque les deux parents souffrent du diabète, il faut connaître est-ce que ces deux parents-là avaient développé le diabète à quel âge. S'ils l'ont développé déjà au stade où ils sont là, ce n'est pas le diabète du type 1. Ce sont des diabétiques, des personnes qui ont développé le diabète du type 2 suite aux facteurs déclenchants dont j'avais énuméré au début. Votre ami-là, il ne peut ou ne pas développer le diabète. Et quand il le développe, ce n'est pas parce que ses parents sont diabétiques et lui aussi, il doit d'office développer le diabète, non. Il l'a aussi développé suite également à l'alimentation et au manque d'exercice. Parce que lorsque les gens qui développent le diabète dès le plus bas âge, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant 17 ans, ce sont ces enfants-là qui développent le diabète héréditaire. Ils l'ont développé héréditaire, pourquoi? Parce qu'ils ont mal peut-être utilisé leur insuline ou il y a une maladie du pancréas qui a déclenché ça. Votre ami, s'il est diabétique, c'est parce que l'alimentation qu'il prend, le manque d'exercice, ainsi que ses parents, l'alimentation et le manque d'exercice, c'est ce qui a déclenché qu'ils ont développé le diabète. La deuxième question, je n'ai pas bien saisi, c'était quoi?
Bon, il dit là-bas, il y a des guérisseurs et traduits praticiens qui peuvent traiter le diabète. Alors, il veut savoir si réellement les guérisseurs et les traduits praticiens peuvent guérir le diabète.
En fait, tout ce que les traduits praticiens donnent, ce que les gens achètent même dans les pharmacies, ce sont les hypoglycémiens. C'est-à-dire, on découvre qu'il est diabétique, on lui dit, ok, prends ce médicament-là, prends cette décoction, prends ce liquide-là, prends ce comprimé, ça va ramener ton taux de sucre dans la valeur normale. Mais est-ce que le malade est guéri du diabète? Il suffit de prendre ces produits-là après, parce que il faut même demander juste au patient de passer 3 mois sans prise de médicaments, il va encore refaire l'hyperglycémie. Ce qui démontre que ce sont des hypoglycémiens.
Donc, il ne faut pas trop se fier aux guérisseurs traditionnels et aux traduits praticiens qui font parfois beaucoup de publicité dans les villages pour attirer la clientèle.
Ils font trop de publicité exactement pour attirer la clientèle, mais ils ne soignent pas une maladie, ils ne soignent pas la maladie, ils soignent des symptômes. Donc, s'il faut aller prendre ces décoctions, c'est juste pour réguler le taux de sucre. Mais être conscient que un jour ou l'autre, je vais encore me retrouver peut-être avec un taux de sucre de 300, 400 ou 600.
Bien, voilà. Donc, si je comprends bien, pour éviter ou traiter ou retarder les conséquences, vous avez dit tout est lié à l'hygiène de vie.
À l'hygiène de vie, exactement. Et puis, il faut se faire consulter se faire consulter et faire des examens. J'ai énuméré quelques des examens qui sont vraiment importants. Ces examens-là permettent de voir si réellement on est diabétique ou non. Ces examens-là permettent également de voir si réellement s'il y a possibilité de produire de l'insuline androgène ou non. Ces examens-là permettent également de voir si la quantité de sucre qui est dans notre organisme au niveau de globules rouges peut être ramenée dans la valeur normale ou non. C'est-à-dire que ce sont des examens qui, chez un diabétique, ceci lui permettrait juste de voir son état et s'il est, il y a possibilité de guérir de cette maladie, il va guérir sans problème.
Mais comment expliquer qu'il y a des gens qui peuvent arriver jusqu'au coma diabétique et en mourir qu'est-ce qui peut les amener jusqu'à ce stade-là?
En fait, la majorité des gens qui arrivent à ce stade-là, ce sont il y a le manque de respect de l'alimentation, des régimes alimentaires, je peux dire. Parce que lorsqu'on est diabétique, il faut connaître les aliments qui ont un indice glycémique élevé. Alors, les aliments qui ont un indice de sucre très élevé, il faut les éviter. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a ceux qui s'en foutent, ceux qui déclarent que c'est une maladie incurable, les médicaments que je prends là, ça va, c'est pour ramener les taux du sucre dans les bons. Alors qu'à un certain moment, l'organisme peut même développer la résistance à ces produits-là et le taux du sucre continuera à augmenter. Lorsqu'ils mangent de n'importe quoi, ils ne veulent plus suivre quand même le régime alimentaire qu'il faut, ils ne veulent plus faire des exercices physiques, ils doivent s'attendre à se retrouver dans un coma diabétique.
Et quels sont ces aliments qui ont un peu trop de sucre?
Il y a du riz, le riz a au moins 80% du taux du sucre, les haricots nous sommes dans les 68%, la farine de manioc nous sommes dans les 52%, les bananes nous sommes dans les 98% du sucre. Les oranges, le mandarine, nous sommes dans les 90-92% du taux du sucre. Donc, il y en a nombreux. L'ananas, le pastèque, nous sommes dans les 79% du taux du sucre. Alors, lorsque un diabétique prend ce genre de fruits, il est exposé directement à faire de l'hypertension, de l'hyperglycémie plutôt.
Voilà, mais il peut le prendre et après, il boit beaucoup d'eau et ça va réduire le taux du sucre dans le sang.
En fait, j'ai toujours conseillé de prendre ce qui a un indice glycémique faible.
Quels sont ces aliments, par exemple?
Comme la poire, comme le prime, comme l'abricot, comme le myrtille, comme le pamplemousse, comme le citron, comme le cœur de baie, ou ce que nous appelons le corossol. Ce sont des aliments qui ont un indice glycémique faible. Pour ce qui est des bananes plantains, il faut toujours les remplacer. Ça, quand c'est non mûr, c'est bon. Mais quand c'est mûr, déjà, le taux du sucre est élevé. Il y a les taros qui ont un indice glycémique faible et riche en fibres. Il y a les ignames qui ont un indice glycémique faible et riche en fibres. Il y a les bitekuteku, les gombos, les maillebos et autres, ce sont des aliments qui ont un indice glycémique très faible. Là, un diabétique peut les prendre et il n'y aura pas d'effet.
Il n'y aura pas d'effet. Docteur Angèle Mouakana, médecin-chercheur spécialiste en phytothérapie, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.